Il n'est pas sain pour une vieille fille amoureuse de l'amour et à son lieu de s'en douter de vivre dans l'intimité de personnes dont l'unique occupation est de se faire aimer. Mademoiselle avait eu l'idée singulière et qui devait lui coûter cher de se lier avec Madame de Montespan et d'en faire à la cour sa société préférée. Elle la recherchait, lui rendait des services et en acceptait. Madame de Montespan était son truchement pour arriver à l'oreille du roi. Mademoiselle tâchait à calmer Madame de Montespan qui, pour des raisons bonnes ou mauvaises, se déchaînait en fou et en extravagant contre Madame, sa femme. « Il est mon parent et je le grondais !» disent les mémoires de Mademoiselle. En bonne connaisseuse, Mademoiselle goûtait infiniment l'esprit original de Madame de Montespan. Le plaisir de lui renvoyer la balle avait commencé leur familiarité. Personne, de plus en plus, ne résistait à la séduction de l'esprit. Dans le désœuvrement accablant de la cour, c'était la seule ressource contre l'ennui. On la prenait ou on la trouvait. La sage et prudente Madame de Maintenon succomba comme Mademoiselle, quand son tour fut venu, au charme irrésistible d'une conversation qui rendait agréable les matières les plus précieuses et ennoblissait les plus triviales. Au plus aigre de sa lutte avec Madame de Montespan, l'une et l'autre se happaient au passage, si l'on me passe l'expression, pour avoir le régal de s'écouter. Et c'était des deux parts une jouissance si vive qu'elles avaient peine à se quitter.
« Madame de Montespan et moi !»
écrivait Madame de Maintenon en 1681.
« Nous avons fait aujourd'hui un chemin ensemble, nous nous tenant sous le bras et riant beaucoup. Nous n'en sommes pas mieux pour cela. »
On n'a jamais trop d'esprit, mais il y a un inconvénient à n'avoir que de l'esprit. Et c'est l'un des écueils vers lesquels Louis XIV était en train de pousser la noblesse française. Il lui avait rendu impossible, en la parquant dans ses antichambres, tout autre effort intellectuel que de chercher de jolis mots pour distraire la galerie. Un homme de qualité commençait sa journée à 8h du matin par faire le pied de grue devant la porte du roi. On se saluait. Les élégants se peignaient avec leurs peignes de poche et chacun guettait du coin de l'œil le moment d'entrer. Molière nous fait assister dans des vers peu connus à l'assaut final.
Gratter du peigne à la porte de la chambre du roi, ou si comme je prévois la presse s'y trouve forte, montrer de loin votre chapeau, ou monter sur quelque chose pour faire voir votre museau et crier sans aucune pause d'un ton rien moins que naturel. Monsieur l'huissier, pour le marquis un tel, jetez-vous dans la foule et tranchez du notable, coudoyez un chacun, point du tout de quartier, pressez, poussez, faites le diable pour vous mettre le premier.
Monsieur le marquis est entré. La chambre est déjà comble. Il gagne le terrain pas à pas. Réussit à voir le roi mettre ses souliers, car il les mettait lui-même, et voilà l'emploi de sa première heure. Il recommencera le soir pour voir le roi ôter ses souliers. Il avait déjà recommencé à 1h de l'après-midi pour le voir manger son potage et 2 ou 3 autres fois dans le courant de la journée pour se trouver sur son passage à l'aller ou au retour de la messe.
et de la promenade. Dans les intervalles, il a eu les occupations puériles, des charges de cour, la tournée des hommages aux membres de la famille royale et aux puissances du jour, le jeu et les autres plaisirs officiels. Point d'autre soulagement à son oisiveté que les mois de campagne, lorsqu'il y a la guerre. Admirons-le d'avoir gardé l'esprit en éveil, alerte à l'attaque et à la parade, et de retrouver le jour où il part, pour l'armée, les vertus militaires, devenues à ceux de sa caste une seconde nature. Ce n'est point de sa faute si les autres facultés, qu'il n'exerçait jamais, que le roi ne voulait pas qu'il exerçât, s'appauvrirent chez beaucoup de ses descendants, avec la prolongation du régime que l'on vient de voir. Quatre ou cinq générations de cette vie absurde aboutirent aux émigrés de la Grande Révolution, tous braves, presque tous spirituels, ou en ayant l'air, et dont un si grand nombre n'avait absolument que de l'esprit. Jamais monarque n'a travaillé avec plus d'art et de méthode que Louis XIV à annuler sa noblesse et à la ruiner dans l'opinion. Le tout en souvenir de la Fronde. Il en était des femmes comme des hommes. Même assujettissement et même vide. D'où on a vu naître le faible de Mademoiselle pour Madame de Montespan. La situation de « maîtresse reconnue » n'arrêta rien. Mademoiselle avait toujours eu pour règle de conduite que la vertu des autres ne la regardait pas. Les nouveautés de cette même situation firent le reste. Ses prérogatives inattendues, les habitudes qui en découlaient et qui sont l'une des curiosités du règne, achevèrent de resserrer une intimité qui survécut ensuite aux plus rudes secousses. Il avait bien fallu, puisque Louis XIV tenait ses maîtresses à la cour, établir pour elles une façon d'étiquette. Il se forma des règles tacites, que personne ne formula jamais, que l'on démêle pourtant à travers les écrits contemporains. Ce furent des règles qui firent le scandale, bien plus que des faiblesses ordinaires aux hommes de tous les temps. Le peuple avait trouvé le mot juste lorsqu'il courait voir
les trois reines
dans un même carrosse. Mademoiselle de Lavallière et Madame de Montespan, toutes les deux à la fois, en étaient venues à occuper publiquement le rang d'épouse en second du roi. Lors des visites solennelles de la famille royale à celui de ses membres qui allait mourir, elles arrivaient ensemble, après le roi et la reine. Mademoiselle les vit au lit de mort de Madame Henriette.
Madame de Montespan et Lavallière vinrent.
Elle les rencontra devant le berceau d'une fille de Louis XIV et de Marie-Thérèse, morte, en bas âge.
Je la trouvai à l'extrémité. On y fut quasi toute la nuit à la voir agoniser. Madame de Montespan et Mademoiselle de Lavallière y étaient.
Cette dernière se dérobait le plus qu'elle pouvait aux honneurs. Madame de Montespan s'y complaisait et s'en ajoutait. Elle s'était mise sur le même pied que la reine pour les visites ordinaires, qu'elle ne rendait
jamais,
dit Saint-Simon, non pas même à monsieur, ni à madame, ni à la grande mademoiselle, ni à l'hôtel de Condé. Même hauteur dans la manière de recevoir chez elle les princes et princesses du sang, et cette
extérieure de reine
la suivit plus tard dans la retraite.
Il n'y avait personne qui n'y fût si accoutumé, qu'on en conservât l'habitude sans murmure.
dit encore Saint-Simon, qui avait connu Madame de Montespan, disgraciée et occupée à faire pénitence, continuant néanmoins à tenir sa cour dans son couvent avec une étiquette aussi royale qu'à Saint-Germain ou à Versailles. Son fauteuil avait les joignants de pied de son lit. Il n'en fallait point chercher d'autre dans la chambre. Monsieur et la grande mademoiselle l'avaient toujours aimé et l'allaient voir assez souvent. À cela, on apportait des fauteuils et à Madame la princesse. Mais elle ne songeait pas à se déranger du sien, ni à les conduire. On peut juger par là, comme elle recevait tout le monde. Le « tout le monde », qui comprenait les plus grands, se contentait de « petites chaises » ou de simples « ployants ». Personne ne s'en offusquait. Toute la France y allait. Je ne sais pas par quelle fantaisie. Cela s'était tourné de temps en temps en devoir. Elle parlait à chacun comme une reine qui tient sa cour et qui honore en adressant la parole. Marie-Thérèse elle-même, au temps où Madame de Montespan était la vraie souveraine, avait subi à la longue l'empire de l'habitude. En 1675, quatrième année de la guerre de Hollande, Louis XIV étant à l'armée, Madame de Montespan à son château de Clagny, et l'un de leurs fils se trouvant un peu malade, la reine se fit une obligation d'aller voir l'enfant et de distraire la mère. Elle passait prendre Madame de Montespan, l'emmener un jour se promener à Trianon, un autre jour dîner dans quelque couvent favori. Exemple qui amena la foule à Clagny et détruisit les dernières hésitations. « La femme de son ami solide, » écrivait Madame de Sévigné, « lui fait des visites et toute la famille, tour à tour. Elle passe nettement devant toutes les duchesses. 3 juillet 1675. » Il y avait eu un temps où cette façon de faire litière des rangs aurait indigné la grande mademoiselle. Mais ce temps était loin, plus loin qu'elle-même ne se le figurait. En 1667, elle avait encore crié très haut, parce que sa seconde sœur, mademoiselle d'Alençon, s'était mésalliée en épousant un simple grand seigneur, le duc de Guise. Et elle avait fait grise mine aux mariés. Mademoiselle n'avait plus le droit d'être si fière, car elle-même était mûre pour les mésalliances. Sa patience était à bout. On n'a pas oublié son agitation pendant que Louis XIV négociait son mariage avec le duc de Savoie. Aucun prince n'avait pensé à elle depuis cet affront. Ils la trouvaient tous trop vieille. Elle ne se l'avouait pas, elle le sentait, et une tempête s'amassait au fond de son cœur. La crise éclata en 1669. Il est impossible de dire dans quelle mesure la nature en fut responsable, et ce qui en revenait à l'atmosphère de désordre moral et d'éléments voluptueux que mademoiselle respirait maintenant à la cour, dans la compagnie habituelle de la favorite. Une seule chose est certaine, la grande mademoiselle n'essaya pas de lutter contre la passion. Son attitude fut plutôt celle d'une personne qui la cherchait.